Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Sylvie Germain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière et essayiste et vous avez déjà plus de 30 livres à votre actif depuis votre premier roman, Le Livre des Nuits, en 1984, et votre premier essai, Les Échos du Silence, en 1996. Je précise que vous avez une formation philosophique, que vous avez été l'élève d'Emmanuel Lévinas, et j'ajoute à titre personnel que j'ai lu et relu et re-relu depuis sa parution en 1999, ce livre, donc Etiel Soum, que vous avez fait sur cette juive morte dans les camps et qui est une biographie ou, comme vous dites, une bio-résonance avec elle. Alors, vos derniers livres, donc 4 actes de présence chez Descoutes Brouwer, donc une réflexion sur l'enfer, Dieu, l'angoisse et la mémoire, un chemin de croix, donc qui est paru l'année dernière chez Bayard, donc qui est une méditation sur les 14 stations de Jésus, et puis en 2012, donc il y a peu de temps, Rendez-vous nomade chez Albin Michel, où vous cherchez, entre autres, à répondre à la question « Qui est Dieu ?» et donc livre qui nous servira à la fois de point d'appui et à la fois de prétexte à notre discussion. Mais avant d'entrer dans ce texte en particulier, j'aimerais avec vous mieux comprendre votre démarche, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire de savoir pourquoi est-ce que de livre en livre vous travaillez, pourquoi est-ce que vous allez de l'avant, pourquoi est-ce que vous cherchez d'une façon ou d'une autre toujours à poursuivre cette quête inlassable de questions, d'interrogations qui sont les vôtres. Il me semble qu'il y a un point central, ou un des points centrales, ou une interrogation qui me semble avoir repéré chez vous, qui est le souci d'être vivant ici et maintenant. D'être vivant, comme, et vous l'empruntez à Maurice Zindel, d'être vivant avant la mort. Je cite Maurice Zindel, que vous citez vous-même dans 4 actes de présence. « La plupart des vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité. Nous existons très rarement, le plus souvent, nous sommes en attente, en capacité d'existence. » Et pour ce faire, dites-vous dans ce texte, il importe de quitter l'enfer, c'est-à-dire, et je vous cite toujours, « Quand il y a, et là vous parlez de l'enfer, quand il n'y a plus que moi, mais un moi insulaire, abandonné de tous, un moi hébété de solitude, perclus d'indifférence, harassé de révolte, stérile, sinistré dans son propre vide, un moi en totale déshérence. » Il me semble que vous rejoignez là, dans votre souci, c'est peut-être ça le fil continu de votre œuvre, que vous rejoignez là votre lecture ou votre résonance avec Rilke, qui avait le souci de l'ouverture, qui avait le besoin de rejoindre la grande solitude pour y arriver. Donc ma question, pour essayer de mieux vous comprendre dans une première approche, ce désir donc d'être vivant, de quitter l'enfer, donc l'insularité du moi, de s'ouvrir, n'est-il pas donc ce souci avant tout spirituel et au cœur de votre propre démarche ?
Oui, il est avant tout spirituel. Alors vous disiez tout à l'heure que je vais de l'avant de livre en livre, j'aimerais bien aller de l'avant. Et c'est un avant plutôt très zigzagant. C'est par pas de côté, c'est par pas de crabe, par petits bonds, et parfois on régresse, et parfois on s'enlise. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à écrire, quel que soit le mode d'écriture. Je pense que c'est valable dans tous les domaines de création artistique. En l'occurrence là, l'écriture, parfois on a un peu pris de vertige et saisi de doute hein, quant à l'utilité de continuer à écrire. On a l'impression qu'on est asséché, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va et comment le dire. Et puis que tant d'autres livres, tant d'autres ouvrages extraordinaires ont déjà dit les choses d'une manière essentielle. Et malgré tout ça, malgré tous les scrupules qu'on peut avoir, on éprouve, en ce qui me concerne, envers et malgré tout, le désir, le besoin pressant, la nécessité, plutôt pour reprendre un terme plus important, la nécessité de s'y remettre, pas du tout en pensant qu'on va trouver la clé, qu'on aura la réponse définitive, etc. Mais c'est au contraire pour se remettre en chemin, pour pas rester dans ce découragement qui peut nous saisir. Et selon les personnes, la manière de penser, c'est pas évident de poursuivre une pensée. Penser, on pense, mais poursuivre une pensée, Il y a des gens peut-être qui y parviennent sans avoir besoin du soutien d'une œuvre à faire, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression que tout s'éparpille très vite. Et quand on est juste comme ça à penser, très vite quelque chose, une autre pensée va venir, et si on la chasse pas, hop, on part un petit peu dans tous les sens, ou on est distrait par mille choses. Et souvent, nos pensées, on ne les poursuit pas vraiment. On les arpente un petit peu, et puis on les laisse en chemin. L'écriture force à poursuivre noir sur blanc. C'est une expression toute simple, mais très, très belle et très profonde. C'est une expression du poète Mallarmé. Poursuivre noir sur blanc. Et c'est tout à fait ça. C'est avoir un papier, ce blanc étonnant, ce blanc qui donne le vertige du papier. Je pense toujours au peintre, quand il se trouve devant son chevalet, devant la grande toile encore vierge, il y a quelque chose qui est de l'ordre du vertige, du défi. Et en même temps, c'est un mélange de panique un petit peu, voire d'effroi et d'émerveillement, parce qu'on a l'impression que tous les possibles sont là. Et on y va peu à peu, pas à pas, un peu comme un insecte qui avance. Puis parfois, en chemin, il y a des bonheurs, il y a des petits moments d'inspiration, vraiment, voire de minuscules illuminations, on pourrait dire même apocalypse, au sens propre du mot apocalypse, hein, pas du tout au sens qu'on lui a donné de dramatique, mais au sens de révélation, tout simplement, et qui n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas ce travail qui est comme un travail de dépliement. L'écriture, c'est vraiment comme si on prenait un papier complètement plié, plié en mille petits plis, et tout doucement on le déplie, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, et parfois, il se passe des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Parfois, il y a un bel imprévu, voilà. Ben, il faut saisir, c'est ce qu'on appelle le kairos, l'instant propice, il faut vraiment le saisir comme ça, un petit peu à l'arraché, et pour pouvoir saisir ces moments de minuscules, de grâce, d'apocalypse, on peut trouver des tas de mots pour le qualifier, il faut être en situation de veille et d'attente, qui n'exclut pas la rêverie, loin de là. C'est ça qui est passionnant avec l'écriture, c'est que ça requiert à la fois deux attitudes en apparence incompatibles, une extrême attention et une extrême distraction. Les deux vont de pair. Et chaque fois que je dis ça, ça me fait repenser à ces textes magnifiques de Bachelard, quand il parle du fameux cogito du rêveur. À travers cette expression de Bachelard, tout est dit de ce paradoxe, parce que vraiment le cogito, c'est normalement, on pense toujours au cogito de Descartes, une pensée même où on est abstrait de soi-même, qui est comme quasiment une sorte de mécanique de rationalité. Alors le mot rêverie, là-dedans, n'aurait rien à faire. Eh bien non. Bachelard a vraiment visé juste, quand il parlait de ça au sujet des poètes et des créateurs, il y a un cogito du rêveur.
Mais là, pour en revenir juste à mon intuition, enfin pour effectivement, pourquoi faire ce travail-là, pourquoi écrire, pourquoi être en attente, pourquoi être en veille, pourquoi attendre le moment propice qui surgit de nulle part, mais qui surgit, sinon, c'est une question, sinon pour éveiller à la vie et pour être plus vivant que nous le sommes, sans doute quand nous ne sommes pas dans cette situation-là, et transmettre, ce qui est votre cas, à d'autres, cette urgence de la vie avant la mort, pour reprendre ce que nous disions sur Maurice Indel.
Il ne faudrait pas donner l'impression qu'on ne peut être vivant avant la mort qu'en travaillant de cette manière-là, qu'en s'interrogeant constamment par voie d'écriture ou d'autres voies cinématographiques, peinture, musique. Et non, il y a des gens que j'admire d'ailleurs. D'une part, ce n'est pas incompatible. Par ailleurs, bon, c'est des gens que j'admire énormément et qui simplement se retroussent les manches et font. Et agissent, où l'action l'emporte, où la réflexion est tellement déjà peut-être profonde et ancrée chez eux, là la nécessité se fait urgence d'activité auprès des autres, dans la société. Ça peut être même via l'engagement politique qui n'est pas évident et qui est souvent tellement décrié parce qu'on nous montre toujours et on souligne toujours les défauts des politiques, et Dieu sait qu'il y en a, ça il y a de quoi faire. Mais si on ne voit toujours que les défauts, je trouve que c'est très injuste par rapport à, je pense, plein d'hommes et de femmes qui s'engagent en politique et qui font aussi des choses à leur niveau très importantes, niveau local, régional ou autre, et qui essayent quand même de faire des choses pour le bien public. Ils ne sont pas tous pourris, comme on dit. Et ça, c'est un discours qu'on entend trop souvent. Ils sont tous pourris. Non. Alors, c'est la politique et dans le domaine social. Alors, pour prendre des exemples concrets et extrêmes, mais qui peuvent parler vraiment à tout le monde, bien sûr, c'est très connoté là, à l'intérieur du christianisme. Et l'abbé Pierre, le père Wresinski, qui était un homme extraordinaire, et tous ceux qui ont repris derrière, tous les anonymes, sœur Emmanuelle et tant d'autres. Bon, je cite les noms les plus connus. Il arrive un moment où eux, l'injustice du monde, la misère du monde leur est tellement intolérable, ils font pas des grands discours, ils vont pas vous sortir les grands textes, ils vont droit, voilà, ils écrivent avec tout leur être, ils écrivent au quotidien pour eux, respirer, regarder l'autre, c'est ça leur écriture. Et ça aussi, ça nous nourrit, on a besoin de tout. On a besoin de la littérature, on a besoin des œuvres d'art, et on a besoin aussi de tous ces gens, et bon là j'ai cité des noms connus, mais il y a tous les anonymes qui sont extraordinaires et qui travaillent comme ça, au nom d'un dieu ou pas, il y a des sortes de formes de sainteté, d'humanisme, athées, ils n'ont pas besoin de se réclamer d'une religion quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, ils sont déjà désignés dans les évangiles, le fameux passage où le Christ dit « J'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais soif, vous m'avez apporté à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, etc. » Et les gens à qui il dit ça, ils disent « Mais comment ça, Seigneur, on t'a jamais vu ? Qu'est-ce que tu dis ?» Et il dit « Si vous l'avez fait à d'autres, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et il dit l'inverse à d'autres qui pensent avoir été de bons pratiquants, de bons croyants. « Mais comment ça, puisqu'on ne t'a pas vu, tu ne peux pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait ?» Il dit « Oui, mais vous ne l'avez pas fait aux autres, aux plus petits. Est-ce que vous ne faites pas aux plus petits ?» Donc, bon, tout ça, c'est à la fois connu et peut-être qu'on ne médite pas assez cette, la pertinence de textes qui peuvent nous sembler en apparence ou simples ou tellement rabâchés qu'on n'y prête plus attention, mais c'est à chaque fois d'une actualité qui est toujours brûlante.
Alors, venons-en justement à Dieu, parce qu'on vient d'aborder ce sujet-là. Vous vous inscrivez dans une tradition biblique, vous parlez effectivement de livre en livre, enfin, je parle plutôt des essais, d'auteur spirituel, votre quête et votre recherche est une recherche spirituelle, mais vous vous méfiez à la fois de ceux qui croient connaître Dieu, de ceux qui le font parler d'une certaine façon, de ceux qui le figent, qui pensent le tenir, qui pensent le stabiliser dans une forme précise. Et pour vous, ça apparaît, me semble-t-il, et en particulier dans ce dernier livre, donc Rendez-vous nomade, pour vous, Dieu est toujours au-delà, au-delà de la connaissance que l'on en a, des mots que l'on utilise pour lui. Et donc, vous êtes, vous, à la fois dans cette idée d'un Dieu qui est toujours au-delà et d'un Dieu qui est un passant. Alors, je cite donc dans « Mourir un peu », donc un autre de vos textes de 1997, où vous dites « Dieu est un passant qui va de par le monde sans jamais s'y installer, sans déclarer propriétaire. Il marche à pas de brise, en terre franche, exempt de toute servitude à son égard. Au passage, il frôle les êtres, érige leur visage en sanctuaire, leur cœur en tabernacle. Il n'a pas d'autre temple que le corps et l'esprit des vivants et n'en envisage pas d'autre. » Donc, est-ce que votre Dieu est à la fois, ou l'idée que vous en faites, ou l'approche qui est la vôtre de Dieu, est un être à la fois insaisissable, pauvre, sans lieu de résidence, sans assignation ?
Oui, mais ça aussi, retour aux évangiles. Et en amont, l'autre texte, à mes yeux, extraordinaire et fondateur dans le Premier Testament, je commençais par la fin, par les évangiles, quand ce fameux passage avec la Samaritaine, quand elle lui dit « Mais alors, où doit-on, Seigneur, adorer Dieu, nous, les Samaritains, notre sanctuaire, où là où on doit adorer Dieu ? C'est un tel lieu, vous, les Juifs, c'est à Jérusalem. » Et c'est là qu'il répond cette phrase extraordinaire. « Le temps est venu où il ne s'agit pas d'adorer Dieu en tel ou en tel lieu, mais en esprit et en vérité. Bon, » si on avait un peu plus réfléchi à ça, si ceux qui sont partis en croisade en massacrant des milliers et des milliers de gens partout où ils passaient, et surtout là où ils sont arrivés, ils n'auraient pas pu commettre ça. Ils n'ont... Même les grands textes, on ne sait pas les lire, et certains qui partent en guerre au nom d'un Dieu soi-disant de miséricorde et qui massacrent leurs contemporains, il y a quelque chose qui est au-delà du scandaleux, qui est monstrueux. Et parfois, pourtant, c'était des gens qui pouvaient faire preuve d'une grande intelligence sur des tas de plans. Mais là, ils étaient d'une bêtise abyssale sur un plan spirituel. Quelle lecture avaient-ils faite de ces textes ? On ne pouvait pas prétendre qu'il fallait délivrer le tombeau. Quel tombeau ? Justement, le Christ n'a pas laissé de traces physiques à ce sens-là, je veux dire. Il y a l'ascension. On le prend comme on veut, symbole ou pas, mais il y a ascension. Il n'y a aucun, comme pour Moïse, il n'y a pas de tombeau assigné. Et heureusement, c'est ça qui permet peut-être justement une sorte de libération spatiale et temporelle du corps qui n'est plus normalement qu'une sorte, qui est comme un corps de gloire. Donc, on a une étrange façon d'interpréter voilà, les textes. Moi, je trouve ce passage, en même temps, totalement révolutionnaire, comme quasiment d'ailleurs chaque phrase des évangiles, si on les regardait vraiment, je ne sais pas, avec un petit peu d'attention, un peu plus de rêverie peut-être, et un peu plus de silence, et surtout de modestie. Et l'autre texte auquel je voulais faire allusion, parce que vous parliez de ce Dieu qui frôle et qui ne s'arrête pas, même s'il saisit, c'est pour relâcher immédiatement. D'ailleurs, c'est le propre du Christ. Chaque fois qu'il guérit quelqu'un, pas une fois il dit « Allez, maintenant tu t'aliènes à moi et tu me suis ». Ce n'est pas un gourou au sens péjoratif du terme. C'est chaque fois « Va », il les libère. Il les libère de leurs maux, physiques, psychiques, etc. Et chaque fois il dit « Va, ne pêche plus ». Maintenant, il renvoie l'autre à sa liberté. Il a été remis debout, s'il veut à nouveau retomber et rouler dans le ruisseau, c'est le problème de l'autre. Mais il ne s'attache jamais, les gens, et même parfois, ils refusent. Certains, par exemple, comme le possédé gérasénien, libéré, et l'autre veut le suivre, et le Christ lui dit « Non, tu ne me suivras pas, tu dois rester là où tu es. Et si tu as quelque chose à faire, c'est là où tu es, justement. Tu peux propager cette parole que je t'ai proposée, qui est une parole de délivrance. » Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est chaque fois qu'il y a délivrance. Et l'autre texte, que je cite très, très souvent, et dans mes textes, et comme ça dans des interventions, c'est dans le Livre des Rois, le fameux passage d'Élie, la théophanie, on peut dire négative, entre guillemets, par rapport à une théophanie positive qui serait celle de Moïse au Sinaï. Théophanie, presque pour prendre le vocabulaire de la mystique apophantique, oui, voilà, manifestation du divin, mais là, sous une forme presque en creux, c'est ça qui est étonnant. Et quand Élie a cette révélation, quand le Dieu passe, il y a ce fameux passage très bref et extraordinaire dans cette façon dont c'est condensé, Élie est comme convoqué à un endroit et il lui est dit de se tenir près dans une grotte, près de la sortie de cette grotte, donc à moitié comme ça protégé. Et il va y avoir, il est dit dans le texte, il y eut un grand tremblement de terre. Point, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Bon. Et il y a un grand feu, il y a un séisme, il y a un grand vent, bon. Et chaque fois, point, Dieu n'était pas dans cette violence, voilà. Et puis, passe un souffle de fin silence, point. On ne nous dit pas, Dieu était là, c'est pas la peine. Ils sont d'une subtilité étonnante, les rédacteurs de la Bible, hein. Et là, point. Et simplement, il est dit, Élie se cache le visage, voilà. Parce qu'Élie a compris quelque chose en lui qui le dépasse, que là est la manifestation du divin. Un souffle de fin silence, c'est-à-dire plus que trois fois rien, qui passe et qui disparaît. Mais c'est ça, c'est le souffle de l'esprit, de la vie, de l'énergie. La lumière aussi, elle passe à une vitesse qu'on ne peut quasiment pas concevoir. On peut chiffrer, on peut tout chiffrer, et alors, pas pour ça qu'on la conçoit, qu'on la comprend vraiment. C'est comme le son, voilà, la lumière, le son, c'est des choses, et il se passe plein de choses, là, même ici, n'importe où, il se passe des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas accessibles à nos sens, c'est tout. Et sur le plan spirituel, il se passe aussi des choses et elles ne sont pas accessibles à ce sixième sens qui nous est aussi donné, d'ouverture à quelque chose de plus ample. Et simplement, voilà, il faudrait peut-être un petit peu plus de travail, de disponibilité, ou aussi de simplicité, d'accepter qu'on puisse être surpris. Voilà, qu'on puisse être saisi, surpris par un souffle de fin silence qui passe.
Alors, dans votre livre, donc, vous distinguez deux choses qui est très important chez vous. La foi des croyances. Donc la foi, c'est plutôt la disposition naturelle des hommes à l'ouverture à la transcendance, une forme d'énergie, de questionnement. Et les croyances sont plutôt des idées donc stabilisées, des concepts, quelque chose qui effectivement fige ce qui, préalablement, dans le domaine de la foi, était plutôt en mouvement. Alors ma question, c'est quel équilibre, à votre avis, trouver entre une foi en ébullition permanente, en veille, en attention, comme vous l'avez dit juste avant, mais qui peut prendre le risque d'une forme de folie des immensités divines, et d'autre part, une croyance rassurante au risque, elle, la croyance, de se scléroser, de devenir une vérité figée comme du bois mort. Quel équilibre peut-on trouver entre les deux, avec les deux risques qui sont inhérents? D'une part, à la fois libérée de tout et au risque peut-être de la folie, et de la croyance qui risque, elle, effectivement, de se scléroser.
Je n'ai pas de réponse précise, ce n'est pas facile. Je les oppose, enfin, pas d'une manière radicale, je dis simplement qu'il serait bien parfois de distinguer ces deux mots qu'on emploie à raison, mais aussi à tort, comme des synonymes. À un certain niveau, où on affaiblit un peu le mot « foi », effectivement, les mots ont plusieurs sens, avec des degrés plus ou moins intenses, et on peut les prendre comme plus ou moins synonymes, mais ils ne sont pas tout à fait synonymes. C'est vrai que là, par exemple, dans la croyance, il y a une véritable ambivalence. Il n'y a pas dans le mot foi. Dans la croyance, il y a cette ambivalence où d'un côté, on peut dire « Oh, je crois que » au sens de « je pense que », mais je ne suis pas tout à fait sûre. Il y a une possibilité, il y a une probabilité. Je crois que le train part à telle heure, je crois qu'il fait beau, je crois qu'il pleut. Bref, on n'est pas sûr. Et puis, il y a le « je crois » grave, profond, voilà. On croit en quelqu'un, on croit en une idéologie, on croit dans un parti, on croit... Et puis, on croit en Dieu, ou on ne croit pas en Dieu, selon, voilà. Et puis, il y a... Alors, par ailleurs, quand on dit une croyance, parfois, c'est synonyme quasiment de religion, d'une religion établie. Donc là, on s'inscrit dans un cadre qui nous dépasse historiquement, qui est déjà constitué, dans une tradition. Alors que le mot « foi », j'essaye de le distinguer, renvoie à quelque chose qui se tient en fait en amont, on peut dire, de la croyance, qui nous serait comme constitutif, mais pas comme une sorte d'organe comme ça. Non, je le verrais, ça c'est même, j'ose pas dire définition, c'est mon indication, on va dire. Je le verrais plutôt comme une sorte de faille, vous voyez, de manque. D'ailleurs, beaucoup de penseurs et de poètes ont pointé une sorte de faille constitutive en l'être humain. Pas spécialement pour en parler en termes de foi, au contraire, certains, ils la laissent se béer comme ça sur du néant. Ça peut aussi bien se dire, la faille constitutive de l'être humain baie sur du néant. Et il n'y a aucun sens à tout ça. Mais on peut aussi sentir cette sorte de, dans ce que j'appelle faille, comme qu'elle baie sur quelque chose d'autre que le néant. Au lieu de le définir, au moins, acceptons de dire qu'on n'a pas les moyens de le qualifier. C'est peut-être facile, me reprocheraient certains, mais c'est de l'ordre du mystère. Est-ce néant? Est-ce Dieu? Est-ce du divin? Quel type de divin? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est le propre de l'être humain dès qu'il a eu accès par le langage à de la pensée, dès qu'il est inscrit dans une tradition. On est tous, à un moment ou un autre de notre vie, surtout dans l'enfance, troublés. Souvent, les adultes sont émerveillés ou très déroutés par les questions incroyables des tout petits enfants. Qui, dès qu'ils accèdent au langage, mais se posent des questions essentielles, les enfants, parce qu'on n'est pas encore venu trop les abîmer, ils n'ont pas encore plein d'a priori, de préjugés, etc. Il y a quelque chose qui est encore vierge chez eux, s'ils n'ont pas été, bien sûr, trop massacrés pour d'autres raisons dès la minuscule enfance. Mais bon, c'est le propre des jeunes enfants de poser des questions qui laissent, en général, les parents, les adultes, d'une manière générale, un peu plus que dérouté, non, ou alors répondre par une manière très sotte. On pense toujours qu'il faut répondre aux enfants, c'est comme quand on parle aux animaux, je ne sais pas pourquoi les gens sont obligés de bêtifier. Non, les enfants ne méritent pas qu'on leur parle en bêtifiant. Il ne s'agit pas d'aller sortir des grands concepts et des mots compliqués, mais je crois qu'on n'est pas obligé tout de suite de leur dire quand un petit enfant apprend la mort parfois d'un de ses parents ou d'un grand-parent et demande, il se pose des questions, l'enfant, ça veut dire quoi être mort ? Et qu'on lui dit, ta grand-mère, ou ceci, est partie au ciel, ça veut dire quoi? Vous voyez, ou est partie chez le petit Jésus? Par exemple, chez les chrétiens, c'est très sot, je veux dire, le petit Jésus. Pourquoi on se sent obligé de tout rabaisser comme si les enfants n'étaient pas capables du nouveau? Ils ont beaucoup à apprendre aux adultes. Et malheureusement, arrivé à un certain âge, les enfants perdent un peu cette grâce. Tout est fait pour ça, faut dire, dans notre société. Mais même, c'est comme ça fait partie aussi de l'évolution. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a sans arrêt dans les évangiles ce renvoi à l'enfance, cette importance à l'enfance, où plusieurs fois le Christ dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et il dit aux autres « Si vous n'êtes pas comme ces enfants, avec leur spontanéité, avec leur candeur, avec... vous n'accéderez pas au royaume de Dieu. » C'est-à-dire, vous ne parviendrez pas, vous êtes déjà comme des chameaux, chargés de préjugés, de lois, d'interdits, d'interprétations plus ou moins alambiquées, qui vous empêchent d'accéder peut-être de revenir vers cette faille constitutive qui est minuscule. Et effectivement, le chameau n'y rentrera pas.
Donc si on prolonge cette distinction que vous faites, donc la foi c'est bien celle de l'émerveillement, de l'enfance, d'être face au mystère qui nous traverse tous. Et puis, d'autre part, la croyance ou les croyances, c'est bien quelque chose, disons, de plus raisonnable, de plus installé, de plus rationnel. Bon. Est-ce que, dans votre idée, cette distinction-là se fait contre les croyances et pour la foi, ou est-ce qu'il faut toujours maintenir cet équilibre entre ce qui est de l'ordre de la croyance stabilisée et ce qui est de l'ordre de la foi à la recherche d'elle-même, du mystère, etc. sans exclure ni l'un ni l'autre.
Ah bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'exclure. Je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste, je ne les oppose pas. Simplement, on va dire que la croyance sera comme une émanation, une mise en forme. La foi, ce sera quelque chose de l'ordre, disons, comme une sorte de jet d'énergie pure. Et simplement, un jet d'énergie ou de force, si vous ne l'endiguez pas, si vous ne le coulez pas dans une forme, ça va partir un peu dans tous les sens ou ça peut devenir dangereux, une sorte de dynamite. Donc, il est bon, il est bien que ça rentre dans une sorte de cadre, dans une sorte de moule, pas au sens où voilà, on va le figer. C'est ça le danger, c'est que ça se fige, vous voyez, que ça se refroidisse pour le coup et que ça se fige dans une sorte de moule très étroit. Voilà, et puis finalement, par commodité, on reste là-dedans. Et là aussi, ça peut redevenir dangereux du coup. Non, on en est tous là, je veux dire, comme on apprend à penser et à parler dans une langue, celle qui nous est donnée, bon, voire deux, trois, mais enfin c'est quand même assez rare, où ça vient au fur et à mesure. En général, on a une langue maternelle et à partir de laquelle on peut s'ouvrir à d'autres langues et acquérir d'autres langues, certes, mais on apprend donc à penser dans une langue. Et quand on se parle, eh ben, on va couler la pensée qui nous vient dans le moule quand même d'une langue, avec une certaine souplesse. Mais je dis bien une certaine souplesse, parce qu'il y a des règles très précises de grammaire. Si là, je me mets à vous parler en dépit du bon sens, sans plus du tout respecter la syntaxe, la grammaire, les accords, ni rien du tout, au bout d'un moment, ça n'aura plus aucun sens. Ça sera peut-être rigolo deux minutes, mais très rapidement, voilà, ça n'aura pas de sens. Donc, pour toute chose, c'est pareil. Dès qu'on veut créer quelque chose, il faut bien qu'on le passe à travers une forme. Le peintre qui est là dans l'éblouissement des formes, des couleurs, il va en passer aussi par un matériau qui lui dicte ses lois. Idem pour le musicien. Il y a des lois aussi en musique, il y a des lois en tout. Il y a des lois pour le sculpteur et pour les danseurs. Pour tout, il va y avoir des... Parce que quand je dis des lois, c'est entre guillemets, mais je veux dire, il y a des règles, il y a quelque chose. Voilà, des formes. Sinon, on ne pourrait rien faire. Donc, pour ce sentiment, on va dire, religieux, pour cette espèce d'élan que l'on sent en soi, quand on ne le renie pas comme possibilité de tension vers une idée que l'on désigne, faute de mieux, par le vocable Dieu, il est peut-être bien d'aller voir, au moins... Si on n'est pas né et éduqué à l'intérieur d'une tradition religieuse, de s'interroger et de peut-être s'intégrer dans une forme qui nous est proposée de tradition religieuse. Il ne s'agit pas de s'y installer comme dans un fauteuil ou un transatlantique et hop, s'y endormir. C'est malheureusement souvent, hein, ça nous arrive, mais aussi de s'interroger, d'arpenter, bah, faire le tour du domaine. Voilà. Donc, c'est garder une dynamique des deux côtés.
De quel déficit fondamental souffre l'Europe ? Démocratique, culturel, institutionnel, économique ? Le point sur l'Europe en 2009 avec Thierry de Montbrial de l'Académie des sciences morales et politiques au lendemain de la tenue du G20 dans un contexte de récession mondiale. L'Europe de 2009, forces et faiblesses en temps de crise, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Un des travaux qui est fait chez vous dans ce rendez-vous nomade concerne, pour effectivement faire le tour du propriétaire et essayer d'explorer un peu le caractère vivant de ce qui pourrait vite être sclérosé et mort, donc c'est l'exploration du mot Dieu, donc de la nomination. Peut-on, de quelle manière, nommer Dieu ? Et là, en reprenant donc un travail qui avait été fait préalablement par Adolphe Guéchet, vous revenez sur l'étymologie du mot Dieu et vous dites que derrière le mot Dieu, donc... qui ne se nomme pas dans la religion juive, mais qui a été nommé dans la religion chrétienne, Dieu, donc, il y a en deçà un sifflement, un étonnement, une admiration, quelque chose qui, là, on revient à cette stupéfaction devant le mystère. Est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'il en est de cet étonnement, ce sifflement primitif qui serait peut-être ce face-à-face inattendu, ce kairos de la nomination, et qui serait celui du premier homme qui, face au mystère de Dieu, s'est trouvé... étonné, bouche bée presque.
Ben vous l'avez très bien dit. Sinon, on ne peut que renvoyer les auditeurs à ce livre que j'avais trouvé très intéressant, « Et si Dieu n'existait pas », paru aux éditions du Cerf, et qui est un ensemble de textes sous la direction d'Adolphe Guéchet, qui était un très très grand théologien. J'avais lu ce texte, ça m'avait frappé. Là, je n'ai plus le texte en mémoire de manière précise, C'est une étymologie peut-être parmi d'autres, hein. Peut-être que des hellénistes diraient qu'est-ce que c'est que cette interprétation étrange. Je ne suis pas helléniste. Simplement, j'avais relevé cette proposition de sens que j'avais trouvée magnifique, proposée par Adolphe Guéchet. Mais là, c'était par rapport au mot Dieu venant de Zeus. Et Zeus lui-même serait venu en amont, enfin non, du mot Théos, Théos. Normalement, on le prononce avec un se plus sifflé, soufflé. Et qu'en amont, amont, ça serait une sorte de simple effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sifflement, un peu sifflement, soupir d'étonnement, d'admiration. On peut après mettre beaucoup d'autres mots derrière ça, beaucoup de compléments. Ça serait venu d'un étonnement. Cette idée de l'étonnement, émerveillement, avec un peu stupeur et effroi, on la retrouve, de toute façon c'est très grec, puisqu'on la retrouve proposée par Platon, proposée par Aristote, comme vraiment le début de la philosophie. C'est très connu dans ces textes-là. Je crois que Platon, c'est dans le Théétète et Aristote, c'est dans la Métaphysique, où il parle de ça, que le début de la philosophie, c'est un étonnement. Si on ne s'étonne devant rien, si on n'est pas étonné d'être là, en vie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi suis-je au monde? Pourquoi y a de la vie? Et pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre? Pourquoi je suis comme ça plutôt qu'autre chose? Et pourquoi maintenant plutôt qu'à une autre époque? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Voilà, on est vraiment des êtres du pourquoi. L'animal ne se pose pas toutes ces questions. Il est ce qu'il est. Il ne se demande pas s'il est une oie, pourquoi je ne suis pas un éléphant, et l'éléphant, pourquoi je ne suis pas une girafe. C'est comme ça. Ou alors peut-être, mais on l'ignore. Ils n'ont pas de langage pour nous parler de leur tourment. Bref, pour revenir à ce thème de l'étonnement qui est donc à la base de tout, mais à la base de l'amour aussi. Quand on tombe amoureux, c'est parce que quelque chose va nous étonner chez la personne rencontrée. Idem en amitié, parce qu'il y a des petits coups de foudre en amitié, dans les relations, dans tout. Et d'ailleurs, la mort des couples ou la mort des amitiés aussi bien, ça vient de quoi? Ça vient qu'au bout d'un moment, ben, l'autre ne nous étonne plus. On s'ennuie s'il ne nous étonne plus. Un amour, sous quelque forme qu'il soit, hein, philia ou eros, etc., ne peut durer que si l'autre reste une source quand même minimalement, mais d'étonnement. Et le goût de vivre, c'est pareil, si la vie ne nous étonne plus, au bout d'un moment, eh ben, on est dans un mal-être profond, dans un ennui profond. Voilà.
Et donc vous insistez beaucoup dans ce texte-là, comme dans le reste de votre travail, sur effectivement cette désinstallation de Dieu, cette délocalisation de Dieu, ce désenformement de Dieu. Et vous dites donc à propos de cet émerveillement, de cette surprise, de ce face-à-face bouche bée, que d'abord, il y a, et je vous cite dans ce texte, un vide, un manque, une absence, une béance, un oubli, une indigence, un néant, un rien. Le divin serait avant tout ce je ne sais quoi dont on ressent le passage. Donc, est-ce que pour vous, Dieu, c'est avant tout ce que vous disiez préalablement, c'est-à-dire avant tout ça, c'est-à-dire l'émerveillement, le vide, ce que l'on ressent de manière négative? Une présence qui est déjà partie alors même que nous nous en rendons compte. Est-ce que c'est ça d'abord et avant tout peut-être Dieu?
Oui, pour moi c'est des questions essentielles, voire essentielles. C'est difficile, moi j'ai pas de réponse précise à donner. Si j'avais une réponse, peut-être que j'arrêterais finalement d'écrire.
C'est une question de sensibilité. On sent que votre sensibilité vous porte effectivement à cet émerveillement-là face à quelque chose qui est ressenti par son absence.
Cette question, tout en me donnant parfois presque des états effectivement de vertige, de désarroi profond. Je suis comme tout le monde, même la plupart du temps, je suis plutôt dans un grand brouillard. Parfois c'est carrément la nuit assez glacée. Sans être du tout dans les expériences des grands mystiques, hein, mais même à nos niveaux ordinaires, bon, on connaît aussi hein, ces passages. Et puis de brefs instants, à défaut de ressentir d'être dans un état où on se sent comme visité, ce dont parlent les gens qui sentent qu'il s'est passé un jour un grand bouleversement en eux et qui a provoqué une conversion, une reconversion à l'intérieur de leur foi ou de leur croyance, qui s'était, disons, amoindri, endormi. Je n'ai jamais connu ça, que ce soit les fameux exemples Saint Paul sur le chemin de Damas, là, c'est foudroyant. Sinon, un peu connu de tout le monde aussi, fameux choc ressenti, l'éblouissement ressenti par Claudel derrière son pilier à Notre-Dame. Il y aurait encore bien d'autres exemples. Et parfois, il suffit de lire dans des articles des témoignages de gens d'âges divers, hommes, femmes, de milieux très divers, et qui étaient aux antipodes de tout ça, qui s'étaient jamais posé de questions, certains. Et soudain, mais alors dans des conditions, mais abracadabrantes, de banalité même aussi bien, soudain se sont sentis happés, visités. Certains disent même ils se sont sentis appelés, presque nommément. Ils ont comme entendu à l'intérieur d'eux qu'ils étaient appelés comme Saint Paul s'est senti interpellé au point d'en tomber de son cheval. Donc, tout ça, je n'ai aucune expérience de ce type-là, mais je crédite les gens qui en témoignent, les expériences qu'ils ont eues. Ils ne sont pas tous des hallucinés, quoi qu'en pensent certains détracteurs du phénomène religieux. Ils sont pas il y a des hallucinés, mais il y en a dans tous les domaines. Et dans ces domaines-là, hélas, il y en a un paquet. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. À la limite, ça, et un dévoiement de tout ça. Il y a aussi des gens tout à fait fiables et psychiquement et qui ressentent quelque chose comme un rapt intérieur, comme sous le coup de foudre, mais ça ne fait que passer. Et après, ils sont dans la détresse, parce qu'on a ouvert, on leur a entrouvert un horizon émerveillant, ils en ont le souffle coupé et c'est déjà fini. Ben oui, puisque Dieu passe, voilà. Et ben après, il faut se remettre en chemin, les mains vides, les pieds un peu écorchés et hop, c'est parti. Et on sait qu'il y aura des jours bons, des jours mauvais, il y aura des hauts, il y aura des bas, et voilà.
Des nuits.
Et c'est la vie de la plupart des gens. On aimerait que ça soit comme ça pour la plupart des gens.
Mais est-ce que dans ce livre-là, vous n'êtes pas tiraillé d'une certaine façon entre le désir de n'en rien dire de Dieu, donc un respect de l'absence de nomination qui est forte chez les Juifs, et puis l'autorisation, et vous dites, est-il légitime de nommer ? Oui, dites-vous. Et le désir aussi de nommer Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un tiraillement entre ces deux fidélités-là, à la fois le souci de nommer et à la fois le souci chez vous de ne pas nommer, de ne pas dire, de ne pas figer ?
Bien sûr qu'il y a tiraillement, mais là encore, il n'y a pas incompatibilité, ça ne s'exclut pas. Parce que si on ne peut rien en dire, donc maintenant on se tait, on ne fait plus rien, ben il ne se passera plus rien non plus. Je veux dire, il n'y a plus de transmission, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus de questionnement. On est bien obligé d'en passer par le langage. Et simplement, il faut en revenir toujours au langage, par la force des choses. C'est le propre de l'être humain pour essayer de penser et de faire avancer son questionnement et échanger dans une communication qui puisse devenir aussi une communion. On n'accepte pas à la communion d'emblée, c'est pas vrai. Il faut quand même passer par un certain travail du langage, de la pensée en amont. Et d'ailleurs, si on peut s'inscrire dans une tradition religieuse, c'est bien parce qu'il y a eu des textes en amont qui nous ont été transmis. S'il n'y avait pas ces textes, personne peut-être, qu'est-ce qu'on dirait du Christ ? On le sait bien que ni Bouddha, ni le Christ, ni Socrate, ni tant d'autres n'ont écrit. Mais heureusement qu'il y a eu des scribes derrière, des disciples, pour transcrire et pour écrire les propos des maîtres. Sinon, ils seraient tombés aux oubliettes et on n'en saurait rien. Donc, chacun à son minuscule niveau, voilà, on essaye d'interroger, de nommer comme on peut, mais tout en sachant que cette nomination n'est qu'une proposition, ce ne sont que des suggestions, c'est comme des jalons qu'on pose pour essayer des sortes de balises, parce qu'on est dans un espace tellement vaste, si on ne met pas un minimum de balises, ben on va se perdre complètement. Donc c'est, voilà, mais ça vaut ce que ça vaut. Même dans le titre, il y a ce mot de nomade, c'est-à-dire on avance, mais même les nomades, pour avancer dans le désert ou les marins sur la mer, ils se fient à quoi ? Ils avançaient avec quoi avant d'avoir les boussoles, etc., ou tous les instruments maintenant hyper sophistiqués ? En regardant les étoiles, où ils savaient lire l'espace, non seulement en lisant dans le ciel, mais également ils savaient lire le vent, l'odeur, presque la texture du vent, comment est le sable ou comment est l'eau, comment... voilà, ils savaient lire tout ce qu'il y avait autour d'eux. Sinon, ils n'auraient pas fait ces voyages extravagants que les humains ont fait depuis des millénaires, même sans aucune encore technique. Et ça, c'est assez éblouissant. Mais bon, là, je me suis un peu égarée avec mes métaphores. C'était donc pour dire que tout en étant dans le besoin ou la nécessité quand même d'essayer de nommer, il faut en même temps accepter de se dire qu'aucune n'est définitive. C'est comme l'attente du rendez-vous, justement, biblique, une tente que l'on déplace en tant que nomade. Un mot, il ne s'agit pas de le renier l'instant d'après, il s'agit de le déplacer. Et d'ailleurs, vous dites, les Juifs ne nomment pas Dieu, bien sûr, mais je crois que dans toutes les religions, on en revient à ça. Simplement, il y a plein d'autres mots autour, d'autres noms, ou des périphrases, ou de, vous voyez, on va toujours trouver, par exemple, dans un texte qui va être traduit, ou si c'est Bible, traduction pour les chrétiens, dans les textes du Premier Testament, ils vont transcrire le fameux tétragramme sacré. Il va être transcrit à l'église, on peut entendre, voilà, c'est lu, c'est prononcé. Chaque fois, je suis un petit peu étonnée, je me dis, on pourrait quand même respecter, même si c'est comme ça formel, mais il y a quelque chose de beau dans le fait de pouvoir lire un mot et en même temps le taire ou le traduire par autre chose. Et je vois, par exemple, dans des traductions dans la Bible hébraïque, il va y avoir le tétragramme et au-dessus, il marque un tout petit, par exemple, Adonai. C'est-à-dire un autre des mots qui sont assignés à Dieu, ou le Seigneur. Il y a beaucoup de mots, ce sont des constellations. Et le danger, toujours, c'est quand on veut figer l'idée de Dieu dans un seul et un unique. mot qu'on lui a assigné. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. De quel droit on fait ça? Regardez, en islam, il y a les fameux 99 plus beaux noms d'Allah. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans. Ben, on aimerait bien quand même que les intégristes se souviennent qu'il y a quand même déjà dans le Coran, sans arrêt, chaque sourate est introduite par le Dieu miséricordieux qui fait miséricorde. Ça, c'est quand même une dimension qui me semble importante. À partir de là, le Dieu qui fait miséricorde, c'est pas très compatible avec une violence mise en activité au nom de Dieu. Voilà, c'est tout. Ça serait intéressant quand même qu'on réussisse, qu'on grandisse un peu, qu'on mûrisse un peu dans l'humanité, pour tout en restant, après tout, que chaque civilisation reste dans le legs. À chaque fois, il y a des choses très belles, quel que soit l'héritage qui nous est donné. Il ne s'agit pas de tout de suite être transfuge ou dire on va tout confondre. Non, non. On peut très bien rester dans une tradition et en même temps écouter ce que disent les autres. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter qui peut rééclairer ou apporter? Dieu nous dépasse tous. Aucune religion n'a le monopole.
Ce que vous exprimez là, me semble-t-il, c'est effectivement le refus dans la langue, dans la manière de s'exprimer, etc. Le refus donc de l'idolâtrie, du mot qui pourrait devenir suffisamment idolâtre pour qu'on puisse l'aimer indépendamment de ce de quoi il est question. Il y a un autre point que vous soulignez dans votre livre que j'ai trouvé tout à fait passionnant, c'est la chose suivante, c'est vous dites, quand les athées disent « Dieu n'existe pas », ils ont raison. Pourquoi ? Parce que vous distinguez l'être de Dieu de l'existence de Dieu. Alors pourquoi est-ce que l'existence de Dieu, pour vous, passe par nous ? Parce que c'est ça ce que vous dites.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on entend beaucoup de gens dire, c'est une expression voilà, toute faite, consacrée, les uns disent « Dieu existe », d'autres disent « Dieu n'existe pas ». Mais dans les deux cas, c'est une croyance. C'est vraiment une croyance, je veux dire, on n'a pas de preuve irréfutable à l'appui. Dieu soit loué, parce que alors, pour le coup, s'il y avait preuve, on le sait très bien, on ne serait plus dans la foi ou dans la croyance du tout, puisqu'on aurait une preuve, on ne vous demande pas de croire...
Et donc on ne serait plus dans la liberté non plus.
Non, on ne vous demande pas de croire que là, il y a une table. Elle est là, la table. Alors, ceci dit, il y en a qui arrivent, si, à nier, mais là, ça nous amènerait ailleurs. Il y a les négationnistes de tout poil arrivent à nier des évidences, vous me direz. Donc on est à l'abri de rien avec la folie humaine, mais bon. Et sa mauvaise foi. Mais quand on est à peu près de bonne foi et normalement constitué, je veux dire, il y a des choses, oui, c'est là, on a des preuves, c'est tangible, etc. Et les scientifiques n'arrivent et ne sélectionnent des choses qui leur semblent des vérités établies quand ils ont des preuves vraiment suffisantes. On sait très bien, c'est pas une science exacte. Ce qui est de l'ordre de la foi ne relève pas d'une science exacte. Donc on peut pas donner des preuves comme ça absolues. Certaines personnes qui ont reçu cette visite, on pourrait presque dire visitation. Saint Paul, Claudel, dont je parlais tout à l'heure, et beaucoup de personnes qui ont éprouvé un jour quelque chose qui les a, mais empoignés, étreints de l'intérieur, dans une sorte d'un feu qui à la fois les embrase, les émerveille, tout ce qu'on voudra, les éblouit et les enténèbre aussi bien. Pour eux, il y a preuve. Mais c'est une preuve qu'ils ne peuvent pas partager. Vous voyez, ils peuvent essayer d'en communiquer quelque chose par leur discours, mais surtout après par la vie qu'ils vont mener en fonction de ça. Parce que les meilleures preuves, ensuite, de la foi réelle et profonde de quelqu'un, c'est quand même que ses actes soient en accord avec ses propos. Il n'y a pas d'autre preuve qu'il pourra donner de sa foi, et c'est par ça qu'il pourra toucher d'autres personnes. Mais il ne pourra pas donner à une autre personne une preuve tangible, comme on pourrait tendre une pomme ou quelque chose. Voilà, c'est ça, je la pose sur la table, la preuve de l'existence de Dieu. Non, non. Les prophètes et des tas de prophètes au fil des millénaires sont passés pour donner des indications de révélation de ce que peut être la pensée de Dieu. Certains les ont suivis, d'autres pas. Beaucoup ensuite de ceux qui soi-disant les suivaient les ont trahis, ont abîmé, surchargé les choses. Et là, je pense qu'aucune religion n'est exempte de, malheureusement, de ce défaut-là. Ça, c'est le propre de la pesanteur humaine, hein. La grâce essaye toujours de s'en dégager. Mais bon, il y a toujours là aussi cette dynamique grâce-pesanteur, qui est reprise génération après génération, et ça incombe à chacun, normalement, à chacun qui vient au monde, de reprendre ça.
Donc vous dites, ce que dit Dieu, c'est bien « je suis celui qui est », et vous dites qu'effectivement, chacun, au regard de sa propre liberté, est susceptible de faire exister Dieu, donc que son existence soit présente en nous, et que, étant présente en nous, Dieu, à ce moment-là, grâce à cette rencontre, à cet émerveillement, à cet enténébrement dont vous parlez, que Dieu existe par chacun de nous. C'est là où vous distinguez les deux.
Oui,
qui semblent
oui je m'étais être, un petit peu
éloigné
de votre question.
Être effectivement un peu central dans vos textes sur cette différence-là. L'existence passe par nous, et Dieu est, s'il existe, suffisamment puissant pour, exister, pour être par lui-même,
bah, si Dieu
et pour n'avoir besoin de personne pour être.
C'est vrai que cette définition, entre guillemets, parce qu'on se méfie de définition au sens de clôture. Quand Moïse demande à cette force qui est au moment du fameux buisson, un buisson qui brûle mais ne se consume pas, « Dis-moi ton nom, pour que je puisse en parler à mes frères humains. » Je veux dire, quel est ton nom, sous quel... Parce qu'il y a Baal, il y a un tel. Les noms dans le polythéisme sont plus que multiples. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je me dis que quand même, il y a des millénaires des hommes et ses intuitions, c'est éblouissant. Et il ne donne pas un nom, il se donne sous forme de verbe à tous les temps. Et ça, c'est encore autre chose. Mais il dit simplement, il se donne, il se définit, il se propose, il se désigne comme verbe. Et pas n'importe quel verbe. Je suis. Et je suis qui ? Celui qui suit. Parce que c'est encore plus fort, cette répétition. Parce que là, on est dans un présent qui comporte en lui et le passé, l'avenir. C'est-à-dire, c'est un présent saturé en même temps et irradiant plutôt d'éternité. On est dans un temps plus que temps en même temps. Et notre temps humain s'inscrit quelque part, voilà, dans cette espèce de dimension qui dépasse notre entendement de... un temps éternité, mais on sent que tout est dans l'énergie, le dynamisme, la vie, une sorte de flux de vie. Donc, si Dieu est, il est. Ça, on peut rien faire contre. Il est. Il est. À ce niveau-là, il n'a pas besoin de l'humanité ou d'autres êtres ou d'autres créatures. En revanche, pour exister dans nos vies, pour nous, bah oui, il faut bien que ça passe par nous. Ça fait partie de la liberté accordée aux humains.
De le faire exister.
Oui, de le faire exister ou non. Voilà. Alors, mais comme quand on a des potentialités, il y a des gens, on regrette chez des gens, on sent, il y a des personnes, on se dit, mais quelle capacité extraordinaire pour la musique ou pour la danse, etc. Si vous ne la travaillez pas, cette capacité, vous ne la faites pas exister, vous ne la faites pas s'épanouir. Donc, quand les athées disent « Dieu n'existe pas », ils peuvent le dire avec une profonde conviction si, effectivement, eux-mêmes n'ont jamais rien ressenti comme questionnement, comme trouble, comme doute. Après tout, et qu'ils considèrent, au vu des représentations que l'on donne de Dieu et des beaux discours sur Dieu, de Dieu, de justement de miséricorde, de justice, de bonté, etc., quand ils voient la misère du monde et la fureur d'injustice qui règne en ce monde, pas seulement, la plupart bien sûr, du fait des humains entre eux, mais quand, c'est toujours l'exemple qu'on donne, tsunami, séisme, etc., où l'humain n'est pas toujours à 100% quand même responsable, ou les maladies, ou les accidents, il y a des choses épouvantables qui surviennent d'une injustice folle, on comprend en même temps que les humains poussent des cris de scandale, d'effroi, de colère, et de colère en se disant, mais si jamais un Dieu existe, comme dit Ivan Karamazov, moi je rends mon ticket d'entrée. Si un seul enfant doit souffrir et mourir, et qu'il faut payer ça pour entrer au paradis, moi je rends mon ticket, ce qui dit je rends mon ticket d'entrée. Et on le comprend. Mais en disant ça, lui qui est Ivan Karamazov, qui se dit athée, qui est dans la révolte, sa révolte, du moins à mes yeux, est tellement légitime par certains côtés que peut-être le Christ lui dirait, mais par cette révolte à l'égard d'une injustice, si tu es prêt à essayer... justement, à ta façon, à ton niveau, dans ton minuscule possibilité d'action, mais de limiter les dégâts du mal dans ta propre vie et d'essayer de faire du bien, finalement, peu importe qu'il soit réclamé du Christ ou de ce qu'on voudra, d'une autre religion, ce qui importe, c'est ce qu'on a fait aux autres. Mmh. Voilà.
C'est pour ça qu'il y a aussi le prince Michkin d'Dostoïevski qui est le pendant ou la réponse.
Ah, ben il y a Alyosha qui est
donne. Alyosha dans les Frères Karamazov.
Oui, dans les Frères Karamazov.
Dans la même Frères Karamazov. Ouais, je vais terminer sur une dernière question. On voit dans votre livre et au début de votre livre une immense sensibilité à tous les malheurs et toutes les atrocités que le XXe siècle a pu porter. Bon. Mais vous dites que ces atrocités-là, ces malheurs, ce mal, ce déchaînement du mal, laissent encore des traces aujourd'hui et que nous devons, d'une certaine façon, être redevables ou être sensibles ou être dans cette connivence, dans ce devoir de mémoire à l'égard de ces malheurs-là. Alors ma question est la suivante, c'est est-ce que vous considérez, parce que vous considérez que Dieu est entaché de cette façon de ces malheurs-là, est-ce que vous considérez que nous sommes toujours dans ce Dieu après Auschwitz, comme disait Jonas, qui se doit, au regard de ce malheur-là, d'être toujours dans l'abandon de la toute-puissance, dans la faiblesse, dans l'humilité? On est toujours dans ces leçons des ténèbres sans jamais connaître, ou sans jamais que Dieu connaisse, si on peut le dire comme ça, le goût de la résurrection.
On pourrait le dire depuis quasiment les origines.
Oui.
Dès que l'histoire de l'humanité se met en place, l'émergence à ce qu'on appelle l'humanité et l'histoire, c'était déjà pareil, j'imagine, à la préhistoire, mais il ne le verbalisait pas de cette façon-là. On est toujours déjà les héritiers, quand on arrive au monde, on est toujours déjà les héritiers d'une histoire. Et en amont, il y a souvent déjà eu des catastrophes, et naturelles, et humaines, historiques. Ça s'accumule avec le temps, les plus anciennes s'effacent. Mais chaque guerre en nourrit d'autres, en prépare d'autres. Chaque injustice, on le sait très bien, en prépare d'autres. C'est ça le poison du mal qui court, hein, comme formule, le mal court. Vraiment, il court. Et on sait que dès que quelque chose est mis en place, qu'un acte mauvais, enfin un acte, quand je dis mauvais, c'est même pas simplement en un sens éthique ou spirituel, c'est-à-dire
le
mauvais
mal,
au sens contre la vie, contre le dynamisme de la vie, voilà. Il y a toujours, même si ces effets ne sont pas immédiats, ils peuvent, parfois c'est en temps très différent. C'est comme certains poisons qui n'agissent pas tout de suite, ou certains chocs que l'on a, ça va, parfois on a des réactions à certains chocs crâniens, pas simplement quelques jours après, parfois c'est des mois après. Et on ne sait pas d'où viennent les maux divers et variés qui sont là, on va voir plein de médecins, etc. Et en fait, ça vient d'un choc qu'on a eu, on n'a pas fait très attention des mois avant. Ou des maladies aussi, on paye ce qu'on a fait par certains excès ou empoisonnements des années avant. Bon, je veux dire, malheureusement, ça, on l'a dans nos propres vies. Mais sur le plan moral, affectif, spirituel, alors là, c'est encore beaucoup plus dangereux autrement et plus sournois, parce qu'encore moins visible. Mais je pense que toujours, les guerres génèrent les autres guerres. D'ailleurs, la plupart des historiens, quand ils travaillent sur une période donnée, souvent doivent faire un petit peu la genèse de ce qu'il y avait en amont. On sait très bien que la guerre de 14 en amont, le fameux traité de Versailles, comment ça a pu préparer ensuite ce qui s'est passé, les drames en Allemagne, la montée de l'hitlérisme, etc.
Il y a un enchaînement dans le
voilà, il y a toujours des enchaînements. Alors là, je vais très très vite, hein. Je m'excuse. Par avance, auprès de toute personne qui pourrait attendre quelque chose d'un petit peu plus précis. Mais également ce fameux antisémitisme qui a, au-delà de culminer au temps de ce qu'on appelait, après coup d'ailleurs, la Shoah, c'était aussi très très préparé par certains côtés, par ce qui a été qualifié de l'enseignement du mépris dans l'Église catholique particulièrement.
Par Jules Isaac, oui.
À l'égard des Juifs, avec des formulations qui étaient mais assassines à l'égard des Juifs. Et on nous mettait ça dans la tête dès la petite enfance. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses à la fois économiques, politiques, intellectuelles, historiques, culturelles. Et c'est ça qui est terrible, terrible, terrible. Et quand vous avez préparé comme ça le terrain en réunissant plein d'éléments, ben, il y a un moment où ça explose. Alors au lieu d'en tirer vraiment une leçon, mais qui soit assez radicale, on avait dit, après la libération des camps, quand on a découvert l'ampleur de l'ignominie commise, on avait dit, plus jamais ça. Comment ça, plus jamais ça? On a recommencé même en Europe, à plus petite échelle, mais ils ont recommencé. Qu'est-ce qui s'est passé en Bosnie? C'était quand même le cœur de l'Europe, et en Afrique. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une chose pareille? Et alors là, sans technique, sans rien, sans organisation, ils réussissent à exterminer une grande partie d'un peuple qui n'était pas si immense. C'est monstrueux ce qui s'est passé. C'est quand même monstrueux. Entre les Tutsis, c'est les Tutsis en l'occurrence qui ont été les victimes. Et d'une manière, mais quelle efficacité en l'espace de quelques mois, quelle efficacité, ils ont pu tuer jusqu'à pas loin d'un million de personnes. On pourrait aussi, bien sûr, en plus on en reparle en ce moment, avec les procès de Douche et autres au Cambodge. Je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Et ça continue dans des tas d'endroits du globe, simplement on fait des focalisations ici ou là au détriment d'autres, mais ça se passe dans des tas de régions du globe. Voilà, que ce soit en Chine, que ce soit aussi tout ce qui se passe, l'éternel drame, sera-t-il réglé un jour, Israël-la-Palestine, qu'on a laissé s'envenimer d'une manière... Et plus on tarde, et plus le venin est profond, et le mal-être est profond, et le déchirement entre ces deux peuples, par ailleurs, qui sont pas un peu frères, plus ça va, plus on a l'impression qu'ils s'opposent, ils se déchirent, ils se haïssent. Et ça, c'est terrible, c'est de mettre en place, comme ça, de laisser la place pour que la haine vienne. On a l'impression que ça vient une sorte de bouillon de culture, et on laisse, et au bout d'un moment, le mal est trop grave, il s'est propagé. C'est comme un feu qu'on n'a pas éteint à temps. Alors, en l'occurrence, pour le XXe siècle, on pourrait remonter de siècle en siècle en siècle jusqu'à la nuit des temps, mais là, c'est notre passé encore proche et extrêmement brûlant. Oui, cette fameuse Seconde Guerre mondiale qui a des effets et des méfaits encore très, très actifs et voilà, éminemment nocifs dans notre présent. Donc, on devrait être un petit peu plus vigilant et dans nos jugements par rapport à l'histoire, c'est très dangereux. Là, ça renvoie encore à l'actualité, nos jugements sur l'histoire. Il faut aussi se méfier de ce qu'on fait, des discours que l'on porte sur l'histoire relativement encore récente.
Eh bien, Sylvie Germain, merci beaucoup. Donc, je renvoie à nos auditeurs donc, à votre livre « Rendez-vous nomade » qui est, me semble-t-il, un exercice salutaire de déprise, de délocalisation, de mise à distance et puis surtout d'instauration de distinction, ce que nous avons vu, et qui permet, dans une recherche spirituelle, de bien mettre de la distance à l'intérieur d'une fidélité et d'une foi biblique, de mieux instaurer une forme d'hygiène salutaire de nos propres croyances au regard de la foi qui est toujours derrière les dites croyances. Sylvie Germain, merci.
Merci beaucoup.